Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bienvenue dans Raconte la parentalité. Aujourd'hui, je vais enregistrer une émission spéciale héritage et transmission. Car aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un que j'appellerai pas par son prénom, mais Tantine, par respect. Comment ça va?
Ça va très bien.
Est-ce que tu veux bien te présenter?
Je m'appelle Makojo Pauline, née le 28 décembre 1958 à Bafoussam. Cameroun.
Au Cameroun. Donc, ça tombe bien parce que ma première question, c'est est-ce que tu es née ici? Est-ce que tu es née au pays? Donc, tu es née au Cameroun. Mmh. L'idée, c'est qu'on discute un petit peu de toi, de ton histoire, mais est-ce que tu peux me dire qui tu étais, Tantine, enfant? Quel genre d'enfant tu étais dans ton souvenir? Est-ce que tu étais une enfant calme? Est-ce que tu étais une enfant qui courait partout, qui posait des questions?
Depuis la naissance, je suis née déjà prématurée. J'étais tout minuscule au temps de guerre en 1960. C'était la grande guerre au Cameroun, m'a raconté ma maman. Et à ma naissance, j'ai été dans une couveuse, élevée par les missionnaires qui m'ont gardé longtemps. Et ma maman pleurait tout le temps parce qu'elle ne savait pas si sa fille devait grandir. Au fil des jours, me voilà déjà une grande fille. Je commence alors mon école primaire, mon école maternelle. Et à l'école maternelle, il fallait mesurer sa main qui devait traverser la tête jusqu'à l'oreille. Mais la petite était toute minuscule. Sa main n'arrivait pas, donc je suis arrivée à l'école maternelle très très tard.
Ça veut dire que dans ce que tu me racontes, on va en reparler tout à l'heure, mais tu pouvais rentrer à l'école dès lors que tu arrivais à toucher ton oreille. Tant que tu la touchais pas, on estimait que tu étais trop petite.
Que j'étais petite.
D'accord. T'as des frères et sœurs?
Oui.
Vous êtes combien?
Nous, on est quatre.
Quatre filles, garçons?
Trois filles et un garçon.
Et tu es le combien?
Je suis la deuxième.
La deuxième.
La fratrie.
T'as grandi avec tes parents ou après? Donc, t'as commencé chez les missionnaires, mmh. Et ensuite, t'as retrouvé la famille, la maison familiale. Raconte-moi un peu à quoi ça ressemblait, la maison. Comment tu vivais à la maison?
À la maison, chez moi, j'étais la meneuse.
OK.
Donc, on peut dire que j'étais l'aînée par rapport à ma sœur aînée.
OK.
Donc, c'est moi qui structurais un peu la maison. J'étais la plus docile, la plus vivante. Par rapport à la structure familiale.
Tu étais le petit leader.
Oui, et mes parents m'aimaient beaucoup, peut-être lié à mon histoire d'enfant.
Aussi.
Je ne sais pas trop pourquoi j'étais comme ça. Et sincèrement, c'est une position qui m'allait bien.
Oui, en même temps, t'es quand même déjà un bébé battant. Parce que tu le dis toi-même, tu commences dans une couveuse, loin de maman. Donc déjà, t'avais cette combativité et donc tu prends ce rôle à la maison de leader.
Ça... Mais le pire, c'est que à la maternelle, puisque les maîtresses devaient nous prendre à chaque domicile, un beau jour, voilà, on m'oublie en classe, malgré que j'étais âgée. On m'oublie en classe parce que je dormais sur la table toute la nuit. Donc mes parents ont passé une nuit atroce. Le matin, comme par hasard, tout le monde était dans la cour de récréation. La maîtresse ne savait pas où j'étais. On ouvre la porte, on voit la petite fille à la fenêtre avec les yeux tout.
Ah ouais, t'as vu.
C'est une histoire.
Et c'est quelque chose qu'on te raconte ou quelque chose qui t'a traumatisé?
Vécu.
Mais tu t'en souviens vraiment?
Oui, 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 je m'en souviens.
Mais c'est terrible.
J'ai passé une nuit blanche, sans être blanche, à pleurer, à hurler dans tous les sens, mais personne ne pouvait m'entendre parce que l'école était fermée. Et dès lors, mes parents ont dit, tu ne pars plus à l'école.
Donc, tu avais quel âge à l'époque?
Oh, je devais avoir 8 ans au moins.
8 ans?
Oui, au
donc,
moins.
Du coup, ils ont eu peur, ils décident de te faire arrêter l'école. Oui. Tu y retourneras plus tard ou c'est définitif?
Je retourne plus tard, mais presque à mi-temps, parce qu'ils avaient peur qu'on m'oublie encore quelque part. Moi, déjà la fille ressuscitée, qui après se retrouve enfermée dans une classe, qu'on m'oublie parce que je dors.
Mais pour eux, c'était...
Oui, c'était horrible.
Pour toi aussi?
Oui, en plus j'étais alors je deviens plutôt l'enfant à chouchouter.
Tu vois, tu disais précédemment, je ne sais pas pourquoi on m'aimait tant, etc. Mais en fait, là, quand tu le racontes, finalement, c'est logique. Un enfant qu'on a eu peur de ne pas voir grandir, et puis un autre jour, un enfant qu'on a eu peur de voir disparaître, on ne sait pas où il est. Donc forcément, après, on t'a surprotégé après ça?
Oh bah oui, j'étais surprotégée et puis en même temps, comme j'étais très brave par rapport aux autres, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, ça m'a donné une force peut-être d'aller de plus en plus. Quoi.
Est-ce que tu arriverais à décrire le type d'éducation que tu as reçu à la maison, là-bas au Cameroun?
C'était une éducation un peu la femme au foyer.
Ok.
Donc, il faut faire le ménage, il faut participer. Il faut faire la vaisselle, il faut aller chercher l'eau, il faut aller chercher du bois pour cuisiner. Parce que moi, j'ai grandi quand même dans une maison sans lumière.
D'accord.
Avec la lampe à pétrole. Donc, nous, on étudiait avec la lampe à pétrole, mais jusqu'à un certain niveau. Et non seulement à l'école, on devait nous frapper parce qu'on n'a pas étudié. À la maison, le papa refusait qu'on étudie avec la lampe à pétrole.
Ah bah oui.
Parce qu'on gaspillait son pétrole en disant qu'on était en train d'étudier, quoi. Donc, malgré tout, je réussissais quand même à ne pas me faire taper à l'école pour cette histoire de ne pas, pouvoir faire ce que la maîtresse disait à l'école, quoi. Parce que à l'école, c'était autant de fautes, autant de coups.
Ouais. Ça a changé là-bas? Depuis?
Oui, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé.
On s'arrêtera sur l'éducation de l'école quand on parlera de tes propres enfants aussi. C'est important. Est-ce qu'il y avait des piliers éducatifs à la maison, des valeurs dont tu te souviens qu'on t'a transmis ou qui se transmettent de génération en génération? Des valeurs, des rites
Ben, tout ce que je reconnais là aujourd'hui, c'est que le fait d'aller faire les travaux champêtres, de ramener au champ, malgré que c'était à des kilomètres, et on marchait mi-pied, sur le soleil, la pluie et le beau temps, il fallait ramener le bois, les vivres, pour se nourrir toute la semaine, et nous, on le portait sur la tête. Et là, en général, au point de vue éducatif, les parents étaient très, très rigides. Donc, on n'avait pas le droit de dire non ou de faire qu'à notre tête parce qu'il fallait écouter ce que les parents disent, qui était très, très important pour nous. Puisque je me souviens encore, ma maman disait toujours, ne fais pas qu'au mariage, dans ton mariage, on te met dehors ou on me traite de n'importe quoi parce que tu n'as pas écouté ce que je te dis. Donc, une femme se lève le matin, elle va balayer la maison.
Elle se lève à quelle heure à peu près?
Mais il n'y a pas d'heure dès là.
Lever du soleil?
Lever du soleil, c'est à 5h, 6h du matin. Et nous, on a été élevés comme ça à la maison. Et c'était très bien. On ne se plaignait pas.
Et du coup, à quel moment vous trouviez le temps de jouer, de rêver?
Mais nous, on jouait. Mais en jouant, il faut dire que tu as des impératifs quand même. Sinon, tu te fais... bastonner. La maman va s'énerver. Parce que si, pour que la maman ne s'énerve pas, il faut que tu joues, mais que tu te dises qu'elle a dit de faire la vaisselle, de balayer la cour, de commencer à faire le repas avant qu'elle n'arrive.
Qui est garant de l'éducation, du coup, c'est la maman ou c'est le papa? Parce que tu disais tout à l'heure, par exemple, quand mon papa arrivait, ça avait un très... voilà. Et là, tu dis la maman, donc qui pose les règles?
C'est
vraiment
la maman.
C'est la maman qui décide.
Surtout la maman. Le papa est là, mais juste pour un cadre sécuritif.
D'accord.
C'est surtout ça. Mais le papa n'était pas là pour nous dire ce qu'il y a lieu de faire, c'est surtout la maman.
C'est surtout la maman. Et avec tes frères et sœurs, du coup, comment ça se passe quand t'es petite?
Avec les frères et les sœurs, moi je te dis, je les tapais dessus. C'est moi qui régnais. C'est moi qui mettais de l'ordre. Et parce que j'étais la plus docile et peut-être la plus intelligente aussi, je pense. Parce que quand ils faisaient les bêtises se faisaient, c'est moi qui gérais. C'est moi qui gérais quand maman était absente. Et par contre, elle venait me gronder parce que si je je me mets en porte-feu avec ma grande sœur et qu'elle pleure, elle n'était pas contente, elle va aller se plaindre à la maman et la maman vient me gronder par la suite, pourquoi tu lui as fait ça, et je vais lui expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai été comme ça, parce qu'elle ne veut pas écouter, quoi.
Il y a certains pays d'Afrique où il y a des rites et des traditions dans l'enfance. Est-ce que le Cameroun fait partie de ces pays-là ou pas spécialement? Que tu dirais qu'il y avait des rites au village, des... alors ça peut être religieux ou autre, tu vois, par exemple, dans la façon dont tu as grandi, est-ce que tu as l'impression qu'il y avait des rituels ou des traditions dans l'enfance dont tu te souviens?
Oui, c'est aller à l'église.
Aller à l'église, aller donc les rites et les traditions
le
religieuses.
Dimanche, et à un certain, à partir de 5-6 ans, il faut aller au catéchisme.
Ok.
Pour pouvoir être baptisé, communié, confirmé, et après c'est le mariage. Et c'est ce que tous mes enfants ont eu.
D'accord.
Aussi.
Donc les rites et les traditions, ils étaient vraiment basés sur la foi et le fait d'aller à l'église de façon répétée à partir de 4-5 ans, tu dis?
Oui, 4-5 ans. Et bien même plus tôt, mais on va avec les parents. Puisqu'il faut déjà commencer à t'initier, comment il faut aller prier.
T'arriveras
c'était très important.
Ok. Tu arriveras en France à quel âge environ?
Je suis arrivée en France, je crois, je devais avoir 20 ans.
20 ans, ok. Donc ton adolescence, tu l'as fait au Cameroun aussi?
Totalement, mais pas chez mes parents.
Alors tu vis chez tes parents jusqu'à quel âge?
J'étais chez mes parents jusqu'au CM1, donc ça veut dire l'âge de 11 ans, 12 ans.
Ok, et qu'est-ce qui fait que du coup tu vas vivre ailleurs? Tu vas vivre où d'ailleurs?
Ben, j'ai mis chez l'oncle de ma mère.
Chez l'oncle de ta mère?
Oui.
D'accord, et qu'est-ce qui fait que tu vas chez ton oncle? Est-ce que du coup c'est quelque chose qui est courant? Est-ce qu'il s'est passé un événement en particulier?
Non, de par la tradition et les rituels d'avant, un oncle ou une tante pouvait venir faire la demande
d'un
enfant dans une famille qu'elle aime bien.
Ok.
Et c'est comme ça que cet oncle est venu, parce qu'il avait 3 enfants et il avait épousé. Il avait une femme française à l'époque. Il est venu chez mes parents et a demandé à ma maman qui était sa sœur si elle pouvait lui donner une de ses filles, en complément de ses enfants qu'il avait à la maison, mais il n'y avait pas de grande sœur.
D'accord. Pourquoi toi?
Si on peut dire malheureusement, c'est moi qui ai été choisie.
Ouais.
Et mon papa a très mal suivi ça.
Mais qui choisit du coup? C'est ce cousin, le cousin de ton père?
Oui.
Il vient, il dit, bon écoute, moi je suis mariée avec une femme européenne, une française, j'ai 3 enfants, il faut que quelqu'un la soulage. Il laisse le choix à tes parents de qui ils envoient, ou c'est lui qui choisit, il dit moi je veux Pauline.
Moi je sais qu'à l'époque, ma maman nous a interpellés tous.
Okay.
On était à l'extérieur, parce que quand il y a les étrangers, on ne peut pas être tous en train de veiller. Elle nous a appelés, les 3 filles, parce que lui voulait une fille. Et on était tous là, tous les 3. Et du coup, il a dit comme ça, que c'est moi qui choisissais. Je ne sais pas pourquoi.
Et les parents ne peuvent pas dire non? Ça ne se fait pas de dire non?
Ben, c'est là où je vous dis que mon papa n'était pas d'accord. Mais il ne l'a pas exprimé.
D'accord.
Il ne l'a pas exprimé parce que je l'ai su. Quand je revenais à chaque fois les voir, ma maman se plaignait et disait que... il va falloir que tu retournes parce que depuis que tu es parti, ton papa n'est pas content du tout. Ou parce que j'étais leader, je ne sais pas trop. Et sincèrement, très très mal vécu ma maman pendant toute cette période.
Ben oui, et toi comment tu le vis? J'imagine que du coup tu savais que ça pouvait arriver ou est-ce que tu le découvres au moment où cet oncle, parce que pour toi c'est un tonton, il vient te chercher? Ou est-ce que tu savais que, ou est-ce qu'on t'avait déjà préparé en disant ça peut arriver? Ou est-ce que c'est au moment où il vient où tu te dis, mais c'est quoi cette histoire?
Mais moi, nous, on ne s'attendait pas. Parce qu'on est enfants. Nous, on ne s'attendait pas du tout. Et quand il a dit, puis ça, c'est un ange. Les parents disent, ben oui,
mais
c'est toi qui dois partir, mais il fallait que je parte. Je suis partie. Mais quand je suis revenue, et à chaque fois, ma maman se plaignait, je crois pour la 2e ou 3e fois, voilà, ma mère me dit, il faut que tu règles ce problème-là parce que ça ne peut plus continuer. Bon, j'étais allée voir mon papa Et je lui ai exprimé ce que ma maman disait et lui ai demandé, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Si tu souhaites bien, je rentre. Mm. Je reviens à la maison, je ne suis pas obligée de rester avec lui. Il a donné son aval, quoi.
Donc, tu es rentrée.
De là, la paix s'est réunie, quoi.
Tu es rentrée, alors du coup, tu pars vers 7-8 ans. Mm. 8 ans. Mm. Et tu reviens à la maison vers quel âge?
Ben, tous les vacances, je revenais.
Tu revenais, mais tu continuais à vivre chez ton tonton.
Oui, c'était, comment on peut dire, une adoption.
Oui, c'est une adoption.
C'est une adoption.
Tu deviens leur fille.
Ben oui, puisque je suis partie de là pour me retrouver au mariage ici en France, bien ouais. Après, quoi. C'est lui qui porte mon éducation en charge maintenant.
C'est intéressant.
À tous les niveaux.
C'est intéressant ce que tu dis, même si on a du mal à imaginer, en fait, que demain... une de mes sœurs vienne et me dise je veux une de tes filles, c'est presque inconcevable. Donc on entend bien et on imagine le traumatisme. Comment t'es accueillie du coup dans ta nouvelle famille, si on peut dire ça, parce que ça reste quand même pas un étranger, ça reste ta famille. Comment t'es accueillie? Est-ce que t'es accueillie? C'est quoi ton souvenir? Comment du coup cette tante t'accueille, ton oncle, les enfants? Est-ce que tu sens que tu es bien accueillie ou est-ce que... Raconte-moi, de quoi tu te souviens?
Au préalable, j'étais contente d'y être. Mais à l'arrivée, ce n'était plus ça.
Donc au préalable, qu'est-ce qui se passe au
C'est-à-dire,
préalable? On t'accueille bien, on est content?
Quand j'y allais, j'étais contente d'y être. Pas parce que je voulais quitter le cocon familial, parce que bon... Parce que c'est des choses qui se passaient à moi. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème, puisque mes parents sont là, ils vivent, ils existent, et je dois les revoir tout le temps. C'était dit. Je ne partais pas pour de bon, quoi.
Du coup, tu es contente d'avoir cette responsabilité, d'avoir été choisie pour aller t'occuper, ou tu es contente
moi,
d'aller vivre autre chose?
Pour moi, ce n'était pas une responsabilité. Hein. Tu as dit, il me prend en complément de ses enfants pour que je puisse aider dans l'ensemble de l'éducation de sa propre famille. Mais malheureusement, pour moi, j'arrive, ça n'allait plus dans son couple.
D'accord.
Donc, je redeviens la maman.
OK.
Et sa femme qui partait tout le temps, mais j'étais toute jeune, je ne savais pas.
Oui, parce que tu as entre 8 et 14 ans.
Oui, je ne savais pas. Et sincèrement, aujourd'hui, tous ces enfants-là sont mes enfants. Les trois cousins que j'ai adoptés dans cette famille-là.
Ce sont tes enfants,
c'est comme... Je suis arrivée là-bas, le dernier, il mettait encore les couches. Et tous dormaient sur mon lit. On était tous ensemble, donc j'étais la maman à couver.
Mais bien sûr. Donc du coup, il y a de l'eau dans le gaz dans leur couple. Donc tu te retrouves avec ce rôle de maman. Et là, tu dis... parce que précédemment, tu as dit au final... oui, au début, j'étais contente, mais finalement, qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que tu as mal vécu, finalement, à l'arrivée?
Ben, c'est porter toutes ces responsabilités-là, vu mon jeune âge. Parce que j'allais à l'école, mais pour aller à l'école, il fallait que je supervise, que les enfants soient, qu'ils aient mangé, qu'ils soient bien. Moi, on avait des boys, on avait tout ce qu'il fallait. Mais j'étais presque la maman.
Qu'est-ce que tu appelles les boys?
Ben, les domestiques.
OK.
Qui devait s'occuper des repas, de faire à manger, et tout ça. Donc, je n'étais pas là comme une domestique. J'étais là pour superviser un peu et puis être la grande sœur des enfants.
Tu rêvais de quoi à ce moment-là? Tu rêvais de retourner à la maison dans ton cocon familial?
Non,
résilience?
C'était une rôle. Ça me plaisait bien. Je n'étais pas mécontent d'être là-bas, parce que c'était aller d'un bon sentiment aussi, que je sois allée, quoi. C'est pour ça que je te dis, quand je suis retournée à la maison et que maman me dit qu'il y a le désastre parce que je ne suis plus là, alors que les autres sont là, que je me suis dit, ah...
Là, il y a quelque chose, en fait. Tu arrives à peu près à 14 ans, donc à partir de ce moment-là, par rapport aux déclarations de maman... Tu parles à ton papa qui accepte que tu reviennes, donc tu fais des allers-retours entre les deux maisons. Ça, tu le vis bien, les allers-retours. Ouais, ça, et ta place dans ta fratrie, du coup, elle change ou elle change pas? Avec tes frères et sœurs, la relation, elle change ou
elle
pas?
Elle change pas, puisque j'étais la fille princesse, je prenais l'avion.
Tu prenais quoi?
L'avion.
Pourquoi? Mais il habitait où ton...
Bah, c'était quelqu'un de l'armée.
D'accord.
Donc, je prenais l'avion qui m'arrivait dans la ville où sont mes parents. Et c'est la voiture militaire qui me déposait à la maison et j'étais plein d'argent.
Ouais.
Il y a ce côté-là. Donc, quand j'arrivais, mes soeurs étaient gâtées. Et ma mère aussi, parce que je revenais toujours avec beaucoup
des cadeaux.
De présents que je ramène de là où je suis et je leur donnais. Puisqu'il n'y avait pas, ils n'avaient pas grand-chose pour vivre aussi.
Tu étais déjà un peu, et là tu n'as même pas encore voyagé pour arriver jusqu'en France, mais
oh,
déjà très enfant, tu étais déjà dans dans une aisance et dans, voilà, tu étais une expatriée, une privilégiée un peu, on peut dire.
Oui, oui, beaucoup privilégiée. Et puis sincèrement, je jouais bien mon rôle. Ça me convenait bien malgré que j'étais petite. Puisque c'est chez lui que j'ai eu le CAP
okay.
dans une autre ville. J'ai élevé les enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Puis je suis avec eux ici aujourd'hui.
Et ils sont là aussi, maman. ils sont en France aussi.
Ce sont mes enfants.
C'est tes enfants. Tes premiers enfants finalement. Puisqu'ils sont nés avant.
On peut le dire, puisque la maman est partie en m'abandonnant tout. Je ne savais pas. C'est après 5 ans que j'ai su qu'elle était partie pour de bon. Quoi.
D'accord.
Ouais. Et c'est moi qui ai continué jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.
Il ne s'est pas remarié?
Le monsieur, si, il s'est remarié.
Il a eu d'autres enfants?
Il a eu deux enfants.
Deux enfants. Et cette nouvelle épouse, elle est gentille avec toi, ça se passe bien?
Non, jamais, j'étais la rivale.
Mais pourquoi elle te voit comme la rivale, puisque tu es...
La dame, hein, pas,
oui,
pas lui.
Oui, elle, pourquoi elle te voit comme la rivale, alors que finalement, t'es un enfant de plus, qui soutient, qui aide. Pourquoi elle te perçoit, selon toi, comme une rivale?
Sincèrement, je ne peux pas décrire aujourd'hui, parce que je peux dire que quand je suis arrivée en France, à 22 ans, et j'avais déjà mes enfants. Là, du coup, comme les affectations se font, voilà l'oncle qui est affecté à Paris, avec tous ses enfants, dont les enfants me retrouvent chez moi, avec les miens. Et du coup, mon mari repart au Cameroun,
d'accord.
Le père de mes enfants, en me laissant avec les 3 garçons déjà. Entre-temps, moi je déprime et je réembarque tout le monde au Cameroun.
Donc tu rentres avec tout le monde.
Oh, je déménage en laissant mon appartement à cet oncle et les enfants.
Ok. Ah, d'accord.
Donc c'est toute une histoire.
Ouais. Et du coup, tu laisses l'appart à cet oncle et ses enfants. Et c'est et qu'est-ce qui se passe pour toi?
Ben il reste, il ne paye pas mon loyer. Et je vais chez lui à Yaoundé avec toutes mes enfants où je galère parce que sa nouvelle femme était là.
Ah.
Là, elle commence la jalousie, elle me vire.
D'accord.
Et je redéménage de Yaoundé pour être à Douala, là où était situé mon mari avec la société. Je fais qu'un an de misère et je reviens chez moi à Paris. Je redéménage avec eux. Et j'arrive à la maison, je trouve toutes les factures et je le vire avec les enfants. Un dimanche, j'étais à l'église avec les miens. J'arrive, le camion militaire était venu, ils ont tout déménagé parce que je lui avais dit, tu dégages. Donc voilà comment mon histoire s'arrête un peu, sans s'arrêter.
Sans s'arrêter. Mais on va y revenir en profondeur.
sans s'arrêter.
On va y revenir sur justement tout ce parcours, mais effectivement, on a commencé en disant que tu viens au monde en tant qu'enfant prématuré, tu te bats déjà pour vivre. Et finalement, cette petite fille combattante, on la retrouve encore dans ton parcours, dans ce que tu racontes. Est-ce que tu veux bien me dire ce qui se passe du coup pour toi, les choses en tout cas que tu as envie de partager entre du coup les 14 ans et on va dire la majorité. De 14 à 18 ans, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi un petit peu...
C'est encore une histoire.
Vas-y.
C'est encore une histoire. Bon, du coup, comme je quitte la maison, ma grand-sœur, elle tombe enceinte.
Elle s'était mariée déjà, elle?
Pas du tout.
Ok.
La misère avec les parents. Et du coup, elle me sollicite par rapport à sa fille, parce que les parents n'en voulaient pas du tout. Et je lui ai promis que ne t'inquiète pas. Je prendrai cet enfant-là en charge. D'où ma première fille en France, là, elle a 50 ans. à leur sœur, à elle.
À l'époque où ta sœur tombe enceinte, toi, tu as quel âge?
Je devais avoir 15, 16 ans.
15, 16 ans?
Oui, c'est
Et déjà, à 15, 16 ans, tu lui dis, t'inquiète pas.
Oui, je veux m'en occuper.
Je vais m'en occuper.
Oui, ne t'inquiète pas, parce qu'elle souffrait beaucoup avec les parents qui voulaient même qu'elle elle voulait même avorter. J'ai dit non, surtout pas, laisse tomber, je prendrai cette fille-là en charge.
Et comment ça se passe, du coup, le temps de cette grossesse non désirée par les parents? Parce que tu dis c'est difficile, mais comment ça se manifeste, du coup, au quotidien? Que ça soit pour toi ou pour ta sœur, parce que du coup, elle vit encore chez les parents?
Elle a été toujours là et elle est encore là jusqu'à aujourd'hui.
D'accord, donc ils veulent pas de cette grossesse, etc. Ils ne l'assument pas, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Mais ils ne la mettent pas dehors, ils la gardent.
C'était une honte pour eux.
Mais la gardent à la maison.
Oui.
En Afrique, on sait que les cancans dans le village... C'est aussi la raison de la honte souvent de.
Oui, maman était très malheureuse avec cette grossesse. Et sincèrement, elle a beaucoup souffert. Donc à la naissance, la maman la vire. Et elle récupère la petite, qui est ma fille aujourd'hui. Donc moi, je m'occupais de la petite. Je savais que c'était la mienne.
C'est-à-dire qu'elle la garde, toi tu récupères le bébé, il a quel âge le bébé?
Moi je m'en occupe à distance.
Ah oui, tu t'en occupes financièrement.
Oui, quand j'arrive, la petite c'est la sœur, c'est que je vais gérer. Et la maman, moi je m'en occupais.
Ok, donc
j'avais dit c'était la mienne.
Ok, donc en fait, dans un premier temps, si je comprends bien, tu t'en occupes financièrement, t'envoies les dépenses, etc., l'argent pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins, et c'est qu'après que tu récupéreras l'enfant physiquement? Ou est-ce que tu ne la récupères pas physiquement?
C'est quand je me suis mariée en Europe que je l'ai adoptée.
Okay.
Je suis passée au tribunal, donc c'est ma première fille.
C'est ta première fille.
Tous les papiers, donc c'est mon mari qui porte son nom.
Okay.
Son nom, puisqu'il n'y avait pas de père. Parce que j'avais dit à ma soeur, je la récupérais, donc finalement je l'ai prise.
Au moment où toi tu prends ton émancipation, que tu te maries en Europe, là tu fais rapatrier cet enfant et t'engages les procédures d'adoption.
Oui.
Donc, ça a été ta première fille, qui a aujourd'hui 50 ans, si j'ai bien compris.
Oui, elle est là, infirmière à Saint-Denis. Elle est là, c'est ma fille.
C'est
elle
beau.
N'aime pas que je raconte l'histoire, mais elle sait son histoire. Elle sait.
Et c'est beau. C'est beau
Et sur l'acte, c'est mon mari qui porte son nom, c'est le père. Mais elle sait.
Elle
c'est
sait.
Pas son père.
Elle connaît son
elle
histoire.
Sait, oui.
Du coup,
mais
c'est...
elle reconnaît son vrai père parce que j'ai fait les démarches.
Elle a trouvé son vrai père.
C'est moi. J'ai cherché jusqu'à ce que je l'ai ramené au Cameroun parce qu'elle déprimait. Pour lui présenter son vrai père par rapport à ma sœur. Elle m'a montré les démarches et je l'ai fait.
Et là, sa rencontre avec son père?
Elle est dégoûtée plutôt.
Mais au moins, elle a vu de ses propres yeux?
Oui, oui, elle le voit, mais elle est révoltée plutôt. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas, je ne sais pas quoi faire. Si elle pouvait faire une thérapie, ce serait bien, mais...
Elle veut pas?
Elle a vu ses deux enfants aussi, mais... Ça ne s'est pas bien passé.
On en profite si elle nous écoute pour l'encourager à, même si ce n'est pas dans toutes les mœurs, même si on a, ce n'est pas des habitudes, etc. Mais ça fait tellement de bien des fois d'avoir une personne à qui parler, juste déposer son fardeau dans un premier temps.
Non, mais c'est parce qu'elle a toute une histoire, même avec le père de ses enfants.
Ben oui.
Ce n'est pas seulement lié à celui-là. Et du coup, ça va, elle se débrouille.
Ce message est pour toi, on va se voir.
Elle se débrouille.
Donc, entre tes 14 ans et tes 18 ans, il y a déjà ce premier passage avec la naissance de ta première fille, on l'appellera comme ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Comment tu rencontres ton mari de l'époque? Est-ce que ça se fait... à quel âge, déjà?
Je pense que ça devait être à 18-20 ans.
D'accord.
Je travaillais déjà.
Donc, entre tes...
Je travaillais déjà au Cameroun.
Entre tes 16 ans et tes 18 ans, tu fais quoi?
Entre mes 16 ans et 18 ans, j'étais à l'école.
Ok.
J'ai commencé par un CAP. Parce que mes parents adoptifs... ne s'attendait pas que je puisse aller loin avec les études, je ne sais pas pourquoi.
Ils ne croyaient pas en toi, tu dirais?
CAP aménagé.
Ils ne croyaient pas en toi?
Je ne sais pas. Sincèrement, je ne peux pas savoir.
Ok. Donc, tu fais ton CAP?
Je fais mon CAP d'aménagé. Et aménagé, ça englobe tout.
D'accord.
Et à l'issue de ce CAP, il me trouve du travail. Mon oncle, il trouve du travail aux forces armées. Je deviens aide sociale au service social des forces armées du Cameroun. Et où j'étais bien payée, malgré que je ne faisais rien, puisqu'il fallait à chaque fois que je rentrais à la maison m'occuper de la famille, jusqu'à ce que j'ai rencontré mon mari, quoi, le père de mes enfants.
Alors, juste avant que tu me racontes comment tu le rencontres, est-ce que tu faisais partie de ces jeunes filles qui rêvent, qui disent « Ouais, moi, plus tard, je veux que mon mari soit comme ci, comme ça. » Ou est-ce que c'est normal, on entend en bruit de fond les petits-enfants, parce que là, on est dans un cadre particulier. On parlera de toute façon en troisième partie de ce podcast. Tu te laisses porter par la vie et jusqu'à la rencontre, ou est-ce que déjà tu t'imaginais, moi plus tard je vais me marier avec quelqu'un qui sera comme ça, j'aurai tant d'enfants? Non, avec tes amis, vous parliez de...
Je pense que oui, quand l'appel m'est arrivé, je n'étais pas là-dedans. J'étais très très autonome. J'avais besoin de personne. J'avais besoin de rien. Moi personnellement, comme je me suffisais avec mon salaire, avec tout ce que j'avais. Pour moi, je formais une grande famille et c'est tout.
Ok. T'aspirais à, avant que ça te tombe dessus, on va dire, t'aspirais à être autonome, une femme autonome qui est capable de se prendre en main et qui a besoin de personne finalement.
Oui, et puis même, sincèrement, j'étais toujours très ambitieuse, puisque avant sa rencontre, je faisais encore mes formations.
Ok.
Pour travailler comme institutrice dans les Aignettes.
Les Aignettes.
Oui.
C'est quoi les Aignettes?
C'est cadre un peu plus supérieur, okay, que le CAP, et travailler dans les CETIF.
D'accord.
Oui, pour les jeunes filles et tout ça, quoi. Quoique j'étais déjà aide sociale, mais moi, ça ne me suffisait pas.
Ça ne te visait pas,
tu voulais
plus. Je faisais
ça en cours du soir, oui. Je le faisais en cours du soir, ma formation, parce que je rêvais surtout sur mon projet, mais pas sur le projet parce que je suis mariée. Non, sur moi-même.
Tu misais sur toi, en tout cas.
Oui, et là, j'ai eu beaucoup de prétendants, mais...
Ils n'étaient pas beaux?
Il m'a convaincue, c'est même pas une histoire de beauté. La beauté, je ne sais pas ce que c'est. Donc, du coup, il m'a promis que comme tu tiens à tes études et tu travailles, et tu viens en Europe, tu feras tes 2 ans d'études pour finir ce que tu es en train de faire, et ensuite, on va retourner au Cameroun.
D'accord.
Voilà comment il m'a convaincu.
Et les autres, ils disaient quoi?
Je ne voulais pas venir.
Mais les autres, ils te disaient quoi?
Les autres...
Tous les prétendants à qui t'as dit non?
Ils étaient très autant. Je prenais l'avion tout le temps. Ils me gâtaient d'argent, de toutes les festivités que j'en avais pas besoin.
Ok.
Mais moi, ça m'intéressait pas.
Ben non, puisque tu pouvais déjà te le payer.
Oui, moi, ça m'intéressait pas. Parce que c'est pas comme ça qu'on entre
dans la vie,
en relation avec une femme, quoi. Ça n'existe pas. J'étais trop gâtée par eux et ce n'était pas ça.
Donc, tu rencontres le prétendant qui réussira à te marier?
Oui, parce qu'on m'avait même dit, ouais, si tu vas en France, tu vas tomber sur un éboueur, sur quelqu'un qui fait le ramassage et qui n'a rien. J'ai dit, mais ce n'est pas grave. Moi, je ne vais pas là pour ça. C'est parce que je suis suffisamment fière de ce que je suis que j'irai me battre. Et je me suis toujours battue.
Lui, il faisait quoi à l'époque? Il avait quel âge à l'époque? Toi, t'en avais à peu près 18, c'est ça?
Oui, il avait dans les, je crois, 22-24 ans.
22-24, et il faisait quoi?
Il travaillait dans l'électronique.
Ok.
L'électronique.
Donc, il te fait cette promesse, on va en France, pendant 2 ans, tu poursuis tes études, tu vas chercher ton diplôme, et ensuite, on envisagera la vie de parents, de famille, qu'est-ce qu'il te promet? Ensuite, quoi?
C'est un peu ça, mais moi, la vie de famille, c'était déjà en priorité. Parce que moi, je voulais construire une grande famille, puisque j'aime ça. Et là, j'arrive, je commence par le lycée.
Ok.
À Paris, j'ai fait la couture, le BEP.
Tu étais dans Paris, lycée, quel arrondissement?
Albert Demain,
okay,
au métro du Rhin.
Donc, tu vas au lycée?
Oui, j'ai fait le lycée 2 ans. Mais bon, si on peut dire par concours de circonstances, je tombe enceinte de mon premier fils.
D'accord.
Doux Brice. Étant à l'école, nous on était 2 mamans enceintes à l'école avec les petites. C'est pas grave.
Comment c'est perçu ça? Quand à l'école ils apprennent que tu es enceinte, est-ce qu'ils te laissent aller jusqu'au bout de tes études ou...
Mais j'étais une femme mariée. comment ils peuvent m'interdire de faire ce que je veux? Ça ne s'était pas interdit, tout au contraire. Les autres étaient jaloux de nous.
Jaloux
des deux? Oui, parce que nous étions les mariés.
Ouais.
Et de sur quoi on attendait les bébés. On était deux à pouvoir être enceinte. Donc j'ai fini d'accoucher mon fils et j'ai passé mon examen.
Très bien.
Dès que j'ai fini, je suis allée passer l'examen, bien encouragée par les autres, les profs et tout. Et puis c'est bon.
Quand ton premier fils que tu vas mettre au monde, parce que tu as déjà des enfants, on le comprend bien dans l'histoire, il y a déjà ta première fille, il y a déjà tes trois enfants que tu as éduqués, on va dire, dont tu t'es occupée. Mais quand tu portes cet enfant pour la première fois en toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est une grossesse qui est facile? Est-ce que le fait d'avoir déjà eu ce rôle un peu de parent avant, avec les autres enfants, bah du coup, tout semble simple? Ou est-ce que tu découvres autre chose?
Non, ça fait que conforter ma joie, le plus imminent que j'attendais, puisque moi, je voulais être maman depuis toujours. Quoi.
Donc cette grossesse, tu la vis dans le bonheur?
Je suis allée à l'école jusqu'au bout. Et je faisais mes tâches ménagères, je m'occupais de tout à la maison comme si de rien n'était. Et à l'époque, j'avais même pas de lave-linge. Et nous, on tapait dans la baignoire comme au pays. Et malgré ma grossesse, je devais faire manger, je devais tout faire. Et j'avais une petite télé que je me souviens avec une corde qu'on balayait partout parce qu'on n'était que deux. On n'avait pas assez de moyens. Non, c'était vraiment bien. Très, très bien.
Comment s'appelle ton premier fils, du coup, Brice. Ton fils, Brice. Brice arrive, il naît. Comment on s'organise parce que tu reprends les études. T'as pas encore fait venir ta première fille à ce moment-là. C'est Brice, seul bébé qui est dans la maison. Comment tu t'organises? Comment vous décidez les choses avec ton mari à l'époque? Est-ce que c'est lui qui garde Brice pendant que toi tu vas à l'école? Comment ça se passe?
Non, il y avait la crèche.
Ok, donc tu as une place en crèche.
Oui, j'ai été sélectionnée, je crois, dès les 6-7 mois.
Ok.
Parce qu'il fallait aller à PMI. La PMI était dans l'enceinte de mon immeuble.
Ok.
Et là-bas, ils m'ont portée, ils m'ont accompagnée. Et puis, sincèrement, ça s'est très bien passé. Donc, ils m'ont suivie.
D'accord.
Et ensuite, le relais a été fait directement par la crèche. À 7 heures, je devais déposer l'enfant et puis aller à l'école et revenir.
Qui pose le cadre éducatif, là, pour le coup? Alors, tu nous as dit, toi, quand tu étais enfant, c'est ta maman qui posait le cadre éducatif et qui était assez stricte parce qu'il fallait quand même que les tâches soient faites en temps et en heure. Toi, tu vas mettre au monde un bébé garçon. Comment vous décidez les choses? Est-ce que ça se fait naturellement? Qui décide?
Mais en général, dans l'ensemble, c'est toujours la maman. Donc, c'est moi. C'est moi.
Donc, tu déposes Brice à la crèche, tu vas à l'école et ensuite tu reviens le chercher, tu t'occupes de lui, de la maison.
De par mon autorité, parce que je suis très autoritaire, c'est moi qui mettais le cadre. Parce que le papa, il n'est pas quelqu'un de très dynamique comme moi et très cadré. Mais dans l'ensemble, c'est moi qui ai été toujours la meneuse. C'est moi. C'est moi. C'est apprendre ou à laisser. C'était comme ça. Et même jusqu'à présent. Je suis comme ça.
C'est
mon caractère. C'est mon caractère. Ou tu prends ou tu laisses tomber.
J'ai eu des positions
même où il a été outré parce que je suis arrivée. Ils ont commencé à me cataloguer en France. Son groupe d'appartenance. Mais moi, j'arrivais, je ne connaissais rien. Un jour, il a commencé à me mettre un cadre. Oui, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il lui a dit, tu ne marches plus avec moi. C'est fini. Et ça a commencé comme ça.
Au final,
il faut qu'il se soumette un peu aussi.
Et il s'est soumis.
On est mariés, mais bien sûr, on est mariés pour être à deux, pas pour être à 10. Si on s'est mis ensemble, c'est pour avancer ensemble, c'est pas pour être à gauche et à droite et essayer de récupérer les choses à l'extérieur. Moi, je lui ai dit non, ça marche pas avec moi. Ou on se suit, on est ensemble, ou tu restes dehors et tu es là-bas.
Il a choisi de te suivre.
La preuve aujourd'hui.
La preuve, c'est qu'il y en a d'autres qui arrivent.
La preuve.
Du coup, entre la naissance de Brice et c'est qui arrive après Brice? Qui?
Les jumeaux.
Les jumeaux. Mmh. Entre la naissance de Brice et des jumeaux, il se passe combien d'années?
Voilà, c'était très rapproché.
Combien de temps à peu près? Ils ont combien?
Ben, Brice est né en 82 et les jumeaux en 84.
Donc 2 ans?
Oui.
D'accord, merci. Donc Brice est encore bébé.
Oui.
Et donc là, t'apprends... tu fais quoi toi à ce moment-là? Tu es encore à l'école? Tu travailles?
À ce moment-là, j'avais déjà arrêté l'école.
Ok.
Parce que c'était plus facile de superviser, subvenir aux besoins de la famille et d'aller à l'école. Parce que l'école était payante aussi.
Toi, tu étais dans une école privée.
Et lui, d'accord, travaillait seul.
Ok, donc c'est plus possible.
Donc, il fallait que je commence à cheminer aussi, que je travaille.
Tu commences à travailler. Tu vas occuper quoi comme poste? Tu vas faire quoi comme...
Ben, dans la couture.
Ok, dans la couture. T'apprends ta grossesse, t'es enceinte.
Oui,
c'est une grossesse que tu voulais ou c'est une grossesse qui arrive à ce moment-là?
Les grossesses, c'est voulu. Et puis, c'était les jumeaux.
Ok.
Du coup, il fallait continuer à travailler. Mais je n'ai pas été longtemps travailler parce qu'il fallait coudre.
Mm.
Et à force de coudre, j'avais les jumeaux dans le ventre.
Ah bah oui.
C'était trop compliqué. Et les employeurs qui ne me faisaient pas cadeau. Tu choisis entre tes bébés et le travail. Mais j'avais vite choisi.
On te disait ça?
Mais bien sûr, j'avais vite choisi parce que j'étais en retard, je n'allais pas vite, j'étais fatiguée, des trucs comme ça. Donc j'ai abandonné. Je suis restée à la maison. Heureusement pour moi, ils sont arrivés à 7 mois, mais étant très bien.
Ils étaient en bonne santé?
Étant bien.
Donc tu accouches des jumeaux, donc te voilà maintenant avec 3 enfants à la maison, un enfant de 2 ans et les jumeaux. Comment s'appellent ces jumeaux déjà? Non, c'est Alexis, moi je le connais.
Et Serge.
Donc Alexis et Serge arrivent au monde. Comment ça se passe l'arrivée des jumeaux plus le premier? Ils sont comment? Les enfants, c'est des enfants. Bah, tu sais, quand les enfants viennent au monde, t'as ceux qui pleurent beaucoup, t'as ceux qui pleurent pas trop, t'as ceux qui ont les coliques, pas de coliques. Comment ils sont les jumeaux?
Ah, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal, mais avec un peu de chance, la PMI m'a aidée.
Ouais.
J'avais une travailleuse familiale. Ouais. La crèche m'a aidée, malgré qu'ils étaient tout bébés. Dans tous les 3, comme Brice était encore à la crèche, je l'ai ramené à la crèche pour souffler.
Ah, c'était bien.
Pour souffler. Mais malgré tout, il fallait laver le linge, les draps dans
Tu lavais encore le linge à la main? On est en quelle année à cette époque? 84?
84, j'avais pas assez d'argent pour investir.
Ah, une machine.
Il fallait les nourrir, j'avais pas encore mon permis. Donc...
tu avais combien de pièces à la maison?
Ben, j'avais 3 chambres à coucher.
3 chambres à coucher. Donc, du coup, quand même, tu avais l'espace.
Salon. Non, c'était bien. Il y a un grand balcon pour eux et c'était à la cité, il y avait de quoi jouer, tout ça, quoi.
Ça, c'était le côté quand même positif en termes d'espace. Donc, tu as des travailleuses familiales qui sont là pour te soulager.
Oui.
Elles font un peu le ménage, elles t'aident à faire à manger, les courses.
Mais sauf que la confiance n'était pas là aussi.
Pourquoi?
J'étais très déprimée toujours parce que ce n'était pas mes mamans.
Ouais.
Ce n'était pas ma mère, ce n'était pas ma sœur. Donc, je ne les faisais pas confiance. J'étais toujours fatiguée. Et celles qui venaient essayer de me détendre, laisse-moi faire avec les enfants. Surtout que quand il y a un qui dort, l'autre est réveillé.
Mm.
Faut gérer. Dès que l'enfant pleure, je n'étais pas en sécurité, quoi. Je me dis, il faut que je le fasse, que je m'occupe. Je ne l'ai laissé pas entièrement.
Bah oui, tu voulais
laisser. J'avais du mal.
Et
quand je l'ai laissé à la crèche, je savais que c'était
là, un cadre. Là, c'est parce que tu avais déjà Brice. Tu dis, j'étais déprimée, donc c'est... Dès que tu arrives en France, que tu ressens cette déprime, ou est-ce que cette déprime, elle vient s'installer justement quand les enfants viennent au monde et que tu te dis, mais toi qui as grandi au Cameroun, quand on a les enfants, tu vois bien les tantes, tout le monde est là à côté. Est-ce que c'est la naissance des enfants qui fait que cette déprime, elle s'installe, ou est-ce que c'est autre chose?
Ben, quand je suis arrivée, j'ai eu une grosse chute quand même, parce que j'étais coupée du monde entier.
Ben oui.
J'avais personne. Et toutes les relations que je pouvais avoir, c'était les relations qui s'étaient implantées déjà, qui ne me connaissaient pas et je ne les connaissais pas non plus. Donc du coup, me retrouver toute seule, sans ma famille, c'était un peu compliqué.
Dans les amis de ton mari à l'époque, ils étaient mariés, ils avaient des femmes?
Ils étaient mariés, mais me jalousaient beaucoup.
Ok.
Sous mon dos, je ne savais pas quoi. C'est maintenant là qu'ils me racontent parce qu'ils sont tous divorcés, ils sont séparés. Personne n'est plus là. Certains qui sont décédés aussi.
Donc,
mais c'est
maintenant
là
qu'ils
me racontent les vraies choses d'avant. Mais tu as quand même tenu. On ne savait pas que tu allais vivre dans ce couple. Je dis, et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi il fallait me juger?
Donc là, la déprime s'installe.
Oui, parce que j'étais un peu rejetée, quoi. Je ne me sentais pas à ma place et que c'était un peu difficile.
Tu avais le contact téléphonique avec maman au pays?
Le téléphone n'existait pas à l'époque. À l'époque, c'était les cabines téléphoniques où il fallait mettre une pièce pour pouvoir parler une minute, quoi. Pas,
déjà
pas
une plus. Minute ici hein, à Paris.
Il fallait avoir la pièce aussi. Hein.
Donc du coup, c'est vrai que... parce que nous, on l'imagine pas ça. Maintenant, tu sais, le téléphone est à portée de main. On se dit, tu peux appeler n'importe où à travers le monde. Donc quand toi, tu dis la rupture, c'est la vraie rupture. Tu peux pas appeler... Tu peux pas les voir.
C'était compliqué.
Ouais.
C'était compliqué. Et surtout quand il y a eu l'arrivée des jumeaux.
Donc la travailleuse familiale, quand elle arrive, elle te trouve dans cet état dépressif.
Oui.
On te propose autre chose que la travailleuse familiale. À l'époque, on te propose peut-être un suivi psychologique ou autre.
Non, même pas. Parce que j'avais pas autant de problèmes. Hein. Mon problème, c'était mes gosses. Puisqu'il fallait qu'ils soient bien. Parce qu'une maman a un souci seulement que les enfants ne pleurent plus. Pourquoi ils vont pas pleurer? Aujourd'hui, en prenant du recul, je me dis que quand on est jeune...
Ouais, on...
Bah oui, pourquoi l'enfant ne va pas pleurer? Il faut que l'enfant pleure.
C'est sa façon de s'exprimer.
Aujourd'hui, avec du recul, je dis, mais ça, c'est pas possible. Mais il n'y avait pas eu maman pour me détendre.
Bah, bien sûr.
Il me dit, c'est normal. Et que j'accepte que l'enfant doit pleurer toute la nuit ou toute la nuit, c'est trop dire. Quoi.
Mais,
ouais. Et tout ça, c'était fatigant.
Du coup, ton mari, il voit que tu déprimes.
Non, puisque je n'en fais pas un problème.
Ok.
Je n'en fais pas. Parce que déprime, pour moi, ici, c'est un gros mot.
Ouais.
C'est un gros mot. Je n'en fais pas un problème. Je fais à manger, je m'occupe des enfants, je fais ce que j'ai à faire.
Et tu gardes dans
je
ton
n'en
cœur
fais pas
le reste.
Un problème. Je n'en fais pas un problème, puisqu'il est là.
Donc là, on a risqué né, les jumeaux qui sont arrivés avec la difficulté d'avoir des jumeaux et de maintenir l'emploi. T'as un autre enfant qui vient au monde?
Oui, le quatrième.
Ici, toujours à Paris?
Oui.
Armel.
Le dernier.
Armel, il est né en quelle année?
87.
Donc, 87.
Oui.
Armel arrive. Donc, t'as déjà Brice, mais il commence à être un peu grand. T'as les jumeaux. Et t'as Armel. Comment tu vis l'arrivée d'Armel?
Là, c'était encore plus dur. Parce que j'ai eu la grossesse du dernier. Le papa vivait en Afrique et moi je vivais ici.
Ah, attends.
Il venait régulièrement.
Tantine, là, on est obligé de faire on est obligé de faire un retour en arrière. Ça veut dire que entre les jumeaux et la naissance d'Armel, il se passe quelque chose. Donc ton mari décide d'ouvrir une entreprise, c'est ça?
Oui. Il rentre au Cameroun parce qu'on avait dit on devait retourner.
Ok. Vous deviez retourner tous ensemble.
Oui.
Ok.
Mais il court-circuite, il dit je m'en vais.
Donc, il décide de partir avant le projet famille.
Alors, il y a trois enfants déjà.
Et à ce moment-là, dans la vie de couple, ça va ou c'est...
Non, ça va.
Donc, c'est une décision juste de « je ne peux pas t'attendre là, je vais d'abord moi ».
Ben, lui, c'était dans le projet de préparer le terrain pour que j'y vais.
Ce qui semble logique.
D'où l'histoire que je vous ai dit, j'abandonne l'homme spécial des enfants et je me retrouve là-bas pour le rejoindre. Pour qu'on reconstruit la vie familiale comme ça avait été dit.
D'accord.
Mais malheureusement, pour moi, j'arrive là, à la capitale. Déjà, les inscrits à l'école, c'était tout un bordel. Il fallait payer les parchiches, je ne connais pas tout ça. Le papa vit dans l'autre ville, à Douala, la capitale économique. Et j'arrive sur Yaoundé, chez l'oncle. Et j'arrive chez l'oncle où sa femme ne me veut pas. Je le veux, elle me fait ressentir. Bon, du coup... Il fallait que je redéménage avec mes gosses pour me retrouver à la capitale économique où était mon mari. Donc, il fallait louer une grande villa où il y a des... Parce que je suis partie avec la voiture et tout. Et avec mon expérience, j'ai trouvé du travail tout de suite à Douala. Et avec les enfants, il fallait faire le ramassage le matin. Laisser les consignes aux domestiques, partir... les laisser à l'école et aller travailler.
Ça veut dire que quand parce que tu l'avais dit un petit peu avant, à un moment donné, t'en as marre d'être dans cet état où tu te sens isolé. Tu décides de repartir au Cameroun avec tous les enfants. Il a quel âge, Armel, quand vous repartez?
Ah, mais il est à la crèche.
Il est à la crèche, c'est un bébé.
Oui, il est bébé, il a 2 ans ou 3 ans maximum.
Quand tu annonces à la crèche, à la PMI, etc., que tu vas repartir avec tous les enfants, ils disent quoi? C'est bien accueilli? Ils ont peur? Qu'est-ce qu'ils te disent?
Avec quelqu'un d'autoritaire comme moi, j'ai pas besoin d'avis.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que même le papa n'était pas au courant. Moi, j'ai décidé. Puisque je ne lui demande rien, j'ai décidé.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand tu décides, tu annonces juste à la crèche, etc. Nous, on repart au Cameroun. Tu n'attends pas, en fait, de oui, c'est bien, non, madame, attention, vos enfants sont petits. Tu pars.
Je suis partie. Mais la chance que j'ai eue aussi, je ne les ai pas déscolarisés.
D'accord.
Sinon, après, j'aurais eu du mal, comme j'ai fait.
Ah, bah tiens, une des petites filles. Tu viens avec nous?
Oui.
Allez. Alors.
J'ai fait 1 an, juste 1 an. Et je suis revenue avec tout le groupe.
D'accord.
En le laissant là-bas, parce que je n'en pouvais plus.
T'en pouvais plus.
Mais là-bas, c'était trop dur.
Mais par contre, dans ce que tu dis... L'organisation avec tous les enfants semble plus facile là-bas avec le fait que tu aies du personnel pour t'aider.
Non.
Non, pas du tout.
Pas du tout. C'était le calvaire. Parce que quand vous arrivez, la famille ne vous tend pas la main.
Bah oui.
Et le papa, il est déjà dans ses vadrouilles.
Donc
tu te retrouves encore de pire en pire que quand tu étais ici. Et c'est ça qui m'a révoltée, survenue. J'ai pris un billet d'avion, je suis venue. J'ai récupéré les billets d'avion, retour.
Et là, tu dis
à l'école et j'ai annoncé à toute la famille on laisse papa dans son Cameroun, et on repart. Et ils étaient contents parce qu'ils étaient tout le temps malades.
Ouais.
Et j'en bavais.
Donc là, les enfants, ils ont entre quel âge et quel âge au moment où tu reviens en France?
Brice était encore à l'école primaire.
Ouais, ok.
Ils étaient au moins une centaine en classe, je me souviens encore.
Au Cameroun?
Au Cameroun. Et là, il fallait payer la maîtresse, je me souviens encore, pour qu'ils puissent s'occuper de Brice, qui était sur une table et qui n'arrivait même pas à écrire. Il fallait qu'il écrive sur ses jambes, parce que la table ne contenait pas 6-7 personnes.
Mm.
Et l'enfant est venu se plaindre à moi. Donc, il a fallu que j'aille négocier. Et le pire, c'est que Armel, puisqu'il faisait très chaud à Douala, je mettais le jus dans la gourde et quand il revenait, il pleurait parce que la maîtresse a pris pour boire.
Oh.
C'est même pas l'enfant qui boit, c'est la maîtresse. Donc, tous ces désagréments. Et à chaque fois que je déposais les enfants, tous les autres couraient après la voiture pour voir s'ils ont des gâteaux, des
trucs. Ben oui. Ben parce que l'écart des conditions de vie fait que...
C'est pas pareil.
Ben oui, c'est pas pareil. Ouh, là, t'as des enfants qui sont privilégiés et puis à côté, t'as la grande précarité, la grande pauvreté. Et puis aussi, l'éducation n'est pas la même, parce que tu vois ce que tu dis, la maîtresse, quand elle boit son jus, c'est pas parce qu'elle peut pas en acheter, c'est juste parce qu'elle veut le jus de l'enfant, elle le prend et elle le boit. Ouais. Donc là, tu prends toute la famille et tu dis, retour à Paris.
Ils étaient aussi malades, je devais les mettre dans les cliniques pour les...
Ils avaient quoi?
Les palus.
Le palu, ok.
Tout le temps. Et faire la perfusion, surtout à Serge, il fallait au moins 3 infirmiers pour l'attraper.
Il avait peur.
Avec les grosses aiguilles, oui, et puis on le rassure pas. Et moi, ça me faisait beaucoup de la peine. J'ai dit non.
Bon.
On repart.
Donc, on laisse papa dans son business.
Oui.
Et toi et les enfants, retour à Paris.
Et donc, quand je suis retournée, il fallait recommencer tout à zéro avec les enfants. Et par mesure de méfiance, ils étaient inscrits tout en colonie. Donc, avant que je ne reparte les ramener, on devait arriver presque en juin, en août, où c'était juin, août, il fallait qu'ils partent. Pour me laisser un peu arriver et puis voir comment gérer la suite. La réinscription à l'école était faite. Et à l'école, quand je suis allée à la mairie, ils m'ont dit qu'il y a les voisins qui sont venus dénoncer que j'étais partie. J'ai dit, mais oui, je suis partie pour un séjour d'un an et je suis revenue. Et
du
c'est
coup,
comme ça qu'ils ont réinscrit.
Ils ont réinscrit les enfants. Heureusement.
Le logement était là.
Du coup, tu disais, donc tu récupères ton logement, plein de dettes. Tu dis, bon, hé, hey, cousin, c'est bon, dehors. Hein.
Ah, oui. Ah, oui.
Donc, il sort, tu arrives. Comment tu fais pour maintenir ton logement sans te faire expulser? Parce que du coup, tu as toutes les factures de retard. Oui. Ça s'élève à beaucoup.
J'avais les allocations.
Ok, donc tu as pu en tout cas, et avec les prestations sociales, le travail, tu as pu garder l'appart.
Parce que dès que je suis arrivée, j'ai commencé des démarches, des petits boulots.
D'accord.
Je faisais le ménage. Et en même temps, je faisais les retouches dans une industrie de couture non loin de la maison. Parce qu'il y avait les enfants aussi à superviser, ils étaient tout petits. Parce que rallier entre le travail et les enfants, il faut faire un choix.
Ouais, faut faire
où un tu choix. Fais vraiment juste ce qu'il faut, le minimum possible, pour ne pas les abandonner. Et c'est ça, quoi.
Donc tu enchaînes les petits boulots. Tu réussis à maintenir la maison. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça veut dire que comment la vie évolue? Comment tu retrouves tes marques? Tu nous as dit précédemment que du coup, après, tu fais venir ta première fille. Mais du coup, tu deviens comme une maman solo. Tu es toute seule avec les enfants.
Oui.
Ben, tu leur expliques?
J'étais d'accord avec moi. C'est pour ça que je suis revenue en force. J'ai dit non, je préfère être encore maman solo que de me faire mal accompagner.
Bien sûr.
C'est comme ça que j'ai choisi.
Et tu leur expliques aux enfants ou
Oh, ils étaient trop petits.
Ils étaient trop petits. Donc, en fait, tu prends toute la maison à ta charge. Tu vas faire venir cette première fille. Elle a quel âge, là, quand elle arrive?
Ah ben, elle était au collège à côté. Elle devait avoir 12 ans, 11 ou 12 ans.
Pourquoi tu décides de la faire venir à 11, 12 ans, alors que tu as déjà les quatre enfants
seule,
qui sont petits?
J'étais seule et avec son concours, on devait élever ses frères.
Ah, ok. C'était donc, elle ça. Te permettait, elle aussi, de te...
Oui, elle savait. Elle savait qu'il fallait qu'elle vienne me donner un coup de main aussi. Et depuis toujours, elle savait qu'elle devait arriver, quoi.
Donc, quand elle arrive, elle endosse un peu le rôle que toi, tu endossais enfant. Elle va t'aider dans l'éducation des...
On est ensemble.
D'accord.
Oui, parce que c'est une bosseuse, hein, comme vous la verrez.
Elle aussi, elle bosse.
Oh là là, c'est le caractère familial.
C'est un héritage.
Oh bah oui, c'est le caractère familial.
Tu pourrais dire que les garçons, ils ont hérité du même? Tes garçons, ils ont hérité de ce caractère?
Bah oui, ils prennent tous. Donc moi, ils travaillent nuit et jour. C'est ce qu'il faut faire. Le travail, c'est la santé.
C'est une transmission, en fait.
Le travail, c'est la santé. Ils ne dorment pas. Hein. Tous les 4 heures.
Ils bossent.
Et moi, ça fait ma fierté. Je leur dis, vous ne passerez pas votre vie à... Même si je pars de ce monde, vous ne serez pas des mendiants. Je leur dis, ils font ma fierté. Ils font ma fierté et mon bonheur, quoi.
Donc là, on arrive vraiment sur... Les garçons arrivent à l'adolescence. Comment tu les éduques? Comment tu poses le cadre en tant que maman solo pour faire? En plus, t'as 4 garçons, donc 4 garçons, c'est pas rien. Hein. Comment tu fais pour que la maison soit en ordre, etc. Est-ce que c'est
la ceinture? Oh là là, ils savent. Oh, je rigolais pas. Moi, ils ne pouvaient pas me taper parce qu'on ne tape pas sur la maman. Tout au contraire, le respect. Et aujourd'hui, ils me disent toujours merci. Hein. Merci, parce que là, ils ont failli déraper. Ils ont failli déraper.
Quand?
Et quand
Comment?
Les deux jumeaux se mettaient contre moi, c'est le grand qui venait me sauver. Parce que moi, je ne me laissais pas faire.
Et quand tu
Et
dis...
Il faut m'écouter, parce que plus ils m'énervent, ah là, ça me tend, quoi. Je suis là.
Mais quand tu dis ils ont failli déraper, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'éducation... Que tu sentais qu'ils respectaient plus trop les règles, ou bien ils tenaient tête, comment ça se passe? À la maison avec 4 garçons, essaye de m'expliquer comment ça se passe.
Non, j'ai eu que les jumeaux.
Ok.
Qui étaient vraiment.
Ça veut dire Serge et Armel, ça allait.
Non, Brice et Armel.
Brice et Armel, ça allait.
Même Armel jusqu'à aujourd'hui.
Mais Serge et Alexis?
Les deux là, c'était des cancres. J'étais à jeter, je tapais.
Bon, pour les auditeurs...
Ben, ils avaient les activités, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais n'empêche qu'ils voulaient me carter. Je dis non.
T'étais dur?
Oh, c'était trop dur. Mais j'étais jeune, hein, j'avais la force. Puisque je sais qu'ils ne peuvent pas me faire du mal, ils ne peuvent pas. C'est mes enfants.
Aujourd'hui, avec le recul, à l'époque, on éduque aussi comme on a été éduqué. Est-ce que tu es d'accord qu'on dit ça? Que la façon dont nos parents nous ont éduqués, c'est comme ça qu'on éduque aussi?
Mais ça vous a fait du bien.
Que du bien?
Mes parents ne me frappaient pas parce que j'étais très docile et intelligente. Ça, moi, je sais. Mais les autres, ils y passaient.
Oui, mais du coup, toi, aujourd'hui, avec le recul, maintenant que tes enfants sont grands...
Une petite âme ne fait pas du mal. Je ne leur faisais pas du mal. Je ne me blessais pas. Je sais comment il faut corriger un enfant, ça va. Et c'est ce qu'on m'a transmis aussi. Ouais, voilà, ça me faisait pas mal. Même si tu cries, ha, 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 c'est une façon de crier. Si tu ne pleures pas.
Mais
parce que tu as peur.
Mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois le choc entre les générations. Ça veut dire que c'est pour ça que j'insistais sur la façon dont on a été éduqué, on transmet ça. Mmh. Parce que finalement, c'est le modèle qu'on connaît. Et c'est un modèle en plus quand il a marché. On le reproduit par mimétisme. Mais tu vois, il y a un choc de génération avec nous, notre génération, où on est plutôt à dire que tu peux frapper ton enfant sans que ça porte de fruits et tu peux obtenir des choses sans les frapper, mais parce que on est outillé différemment aussi. Hein. Il y a plein de choses que vous n'avez pas à l'époque, mais tu vois, du coup. Quand on parle avec les aînés, etc., la ceinture, ancestralement, ça a toujours été dans tous les pays, en
Parce
France,
moi,
en Afrique.
Je constate que la jeune génération, ils frappent par dépression. Alors que nous, les mamans de l'époque, ce n'était pas une dépression.
Ah, c'est intéressant
c'est
ce que tu dis.
C'est une éducation. C'est une transmission. Tu veux faire passer un message à ton enfant. Quand tu lui donnes une petite tape à la fesse, ça ne veut pas dire que tu tapes. Ou quand tu lui donnes une petite gifle, pourvu que tu sens que ça va le toucher quand même. Mais tu ne lui laisses pas les traces. Tu n'es pas en train de l'assommer.
Tu n'es pas en train de le battre.
Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ton enfant. Mm. C'est par amour que tu lui fais ça. Et l'enfant doit comprendre. Parce qu'il y a une façon, une certaine posture pour faire. Donc, il sait que quand tu es fâché, l'enfant doit reconnaître. Et toi, tu dois avoir un temps de relâchement pour pouvoir le recueillir s'il revient. Mais normalement, il doit revenir.
Et t'as dit alors que là, nous...
Il doit revenir, parce que c'est pas méchant ce que tu lui fais. C'est juste pour lui faire passer un message. Et lui comprend.
Tu vois, expliquer avec vos mots, là, comme tu l'as dit.
Il faut commencer très tôt.
Mais t'as dit un autre truc. T'as dit, alors que la nouvelle génération tape par dépression.
Oui.
Donc, tu vois, c'est quoi la différence pour toi?
Mais la différence, c'est qu'une maman comme moi, quand je le faisais à mes gosses, c'était par amour. Je ne suis pas déprimée. Mais c'est parce qu'il ne veut pas m'écouter.
C'est un moyen éducatif à
oui,
ton sens
oui.
Et quand tu tapes par dépression, du coup, pour toi, c'est quoi? Quelqu'un qui tape par dépression, du coup, c'est quoi?
Il fait très mal. Il fait très mal au petit qu'il ne peut pas. On peut le blesser, on peut lui faire mal. Alors que là, c'est pour faire passer un message. Parce que même quand ce jeune pleure, Il pleure parce qu'il a failli à ce que la maman...
Mais pas de douleur.
Oui.
Alors que dans ce que toi, tu dis, en tout cas, les parents de la nouvelle génération qui, eux, vont frapper par dépression, ils ne sont pas dans un modèle éducatif ou dans...
Moi, c'est
même
ce
pas cette, se faire attention à quel endroit tu frappes, etc.
Oui.
Ils tabassent, en fait.
Oui. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que l'enfant le ressent et à la longue, il a la haine contre toi. Il se révolte. Quand il sera adulte, il peut plutôt agir autrement. Alors que là, quand tu le fais avec finesse, tu sais de quoi tu es en train de parler. Tu sais pourquoi tu le fais.
Merci Tantine de déposer ça. Tu sais, pas parce que c'est bien ou pas bien. L'idée, c'est juste de raconter comment toi, tu as vécu, mais surtout parce que c'est tabou et que on est dans un modèle où faut pas frapper les enfants, la loi dit que les droits des enfants, etc. Ça a été démontré que frapper un enfant, ça fait pas du bien, ça fait plus du mal. Et ben du coup, on prend pas le temps de poser la question. Et tu vois là, comme tu l'as dit de façon spontanée, t'as aussi dit non mais nous, c'est ce qu'on appelait, ce que je dis, j'emploie le mot taper, mais c'est pas taper, c'est mettre une tapette, etc. Pour éduquer, ça a du sens. Alors que aujourd'hui, c'est violenter, c'est battre. Et ça,
c'est une vengeance.
C'est une vengeance.
Oui. Et l'enfant n'a rien à y voir par rapport à ton mal-être, par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que l'enfant vient voir là-dedans? Parce que quand tu analyses un peu, tu trouves que c'est déplacé. C'est déplacé. D'où le tiraillement entre je, moi, c'est toi, je. Mais là, quand tu commences tout petit, 2-3 ans, à parler à l'enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ça. L'enfant finit par intégrer. Même si tu dois répéter encore 10 fois, tu le fais. Et en grandissant, l'enfant acquiert une certaine façon de faire. Il ne t'embêtera pas pour t'embêter. Quand tu lui donnes des consignes, il va écouter. il va respecter. Et au fur et à mesure, il faut lui expliquer par amour pour lui, parce que c'est parce que tu veux son bien. C'est pas parce que tu veux le brimer, quoi, le brutaliser. Pourquoi arriver à la table? Parce que tu es têtu. Et la têtutesse, non, c'est pas bien.
C'est-à-dire
il faut obéir à l'adulte et il faut écouter, parce que tu es petite. Tu dois comprendre ce que l'adulte dit pour ton bien-être, pour ta construction.
Et est-ce que tu as l'impression que dans ce que tu as mis en place dans ton modèle éducatif avec les enfants, ils comprenaient le sens?
Ah ben là, ils m'en veulent pas. Ils peuvent te le dire. Je ne sais pas s'ils m'en veulent.
Non, pas aujourd'hui, mais à l'époque, est-ce qu'ils comprenaient le sens de ce que tu leur demandais? Est-ce que aujourd'hui, ta lecture, quand tu les regardes, quand tu vois ce qu'ils sont devenus, est-ce que tu as l'impression que le sens y est? Parce que tu vois, c'est pas. T'as dit quand les gens tapent par mal-être, par dépression, par souffrance, l'enfant ressent que c'est pas juste parce qu'il y est pour rien. Du coup, il attise une colère et donc il comprendra jamais. Donc, dans l'éducation qu'on lui a donnée, c'est pas une éducation bienveillante et juste, c'est une éducation où j'étais le souffre-douleur quelque part. Et toi, t'as différencié en disant, toi, t'as éduqué avec, par amour, dans une envie de transmettre. Quand tu regardes tes enfants aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'objectif que tu t'étais fixé, il est atteint?
Pleinement.
Pleinement?
Pleinement. Parce que, en général, si je parle de moi, ben, j'ai accouché par amour. C'est parce que j'aime mes enfants et je voulais mes enfants. Je voulais ces enfants-là. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Ni pour le civil, l'école ou le mari. Non, je n'étais pas là-dedans. Moi, c'était mes enfants. Et il fallait que je leur transmette quelque chose. Et aujourd'hui, comme je te dis, ils me font mon bonheur. Ils sont très fiers. Ils me donnent tout le respect que j'attendais d'eux. Maintenant, ils sont adultes et ils sont aussi chez eux. Donc, actuellement, je le ressens, même quand je suis face à mes copines, elles me le disent, waouh, parce qu'ils sont respectueux, quoi. C'est ça, le respect de l'autre.
On entend souvent petit problème, grand problème. Tu es d'accord avec ça ou pas?
Petit problème, je sais que l'enfant, c'est jusqu'à 100 ans. Tant que je vis, c'est mes enfants. Je le dirai toujours, parce qu'à chaque niveau, je suis là.
Mais t'as l'impression que les problèmes ils grandissent avec le temps. Parce que moi, j'entends souvent ça. Oh là là, t'inquiète pas, hein. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Toi, t'es d'accord? Est-ce que
c'est vrai? Parce que c'est pas parce qu'ils sont partis que j'ai pas de soucis. J'en ai toujours et j'en aurai toujours. Et ça perd. Je crois que c'est ça qui fait l'existence aussi d'une maman bienveillante et qui veut toujours l'apogée.
T'as dit que dans la façon dont toi t'as été éduquée, il y avait le prisme et l'espace de la religion qui était important, le fait d'aller à l'église, le fait d'aller au catéchisme, etc. C'est quelque chose que t'as transmis à tes enfants?
Oui, ils ont été tous jusqu'à la confirmation, mais aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont plus. Ils ont choisi.
Et ils ont choisi quoi? Est-ce qu'il y en a qui ont choisi de... Est-ce que toi déjà, tu vas encore aller à l'église le dimanche?
Oui.
Ok. Et tes enfants, ils ont choisi quoi, eux, du coup?
Ils viennent que pendant les temps forts, quand je leur dis.
Ils viennent accompagner maman, quoi?
Oui, il y a une messe d'action de grâce, il y a telle chose, et ils viennent. Et là, depuis un moment, je suis avec une des dernières, là, régulièrement à l'église, à 10 heures. Et elle est très attentionnée.
Une de tes filles?
Une petite fille.
Ah, une de tes petites filles. D'accord, on va en parler aussi, justement. Juste avant de parler de maintenant, du coup, tes grand-mères, donc il y a encore une deuxième étape. Est-ce qu'il y a des... Là, on a brassé un peu ton histoire de façon large, jusqu'à ce que tes enfants soient adultes. Est-ce qu'il y a des épreuves ou des choses qui sont importantes pour toi que tes enfants sachent que tu as dépassé? Parce que tu es quelqu'un de battante, tu es quelqu'un de... qui lâche pas et qui sait où elle va. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise quand même, c'est pas rien.
Oui, ça, oui. Commençant par femme de ménage. Je faisais les escaliers des immeubles pour les élever, pour les éduquer. Je faisais les bureaux jusqu'au moment où j'ai compris qu'ils étaient
un peu plus autonome et que je pouvais les relâcher. Mmh. J'entre dans une institution où je suis femme de ménage toujours pour la ville de Paris. Et c'est comme ça que je passe par une formation professionnelle pour être monitrice éducatrice.
Ok.
Et puis je suis mon parcours dans le social, mmh. où j'intègre un centre éducatif dans le 77 pour la ville de Paris toujours, accompagnement de mineurs étrangers mmh. isolés et sociales, où j'ai fait 10 ans.
Ça t'a plu?
Oui, jusque-là, après les 9 ans, j'ai commencé à dégringoler parce que je ne suivais plus, mmh. parce que c'était trop dur.
Qu'est-ce qui était dur?
Moralement et psychologiquement, l'accompagnement de ces jeunes qui
Pourquoi?
Étaient...
Pourquoi? Qu'est-ce que tu as trouvé dur, toi?
Ben, c'est rattraper les erreurs de certains moments. Puis s'ils sont adultes.
Donc, parce rattraper que les cas les sociaux, erreurs les...
Oui.
de certaines mamans.
Oui, c'est comme ça que je
ouais,
peux
c'est
le
comme
dire.
Ça que toi, tu le dis.
Ben, je
tu...
le décris ouais, comme ça, décris parce que les miens ne sont pas passés par là ah. pour être ce qu'ils sont aujourd'hui.
Tu as un exemple qui t'a marqué? Oui. Enfin, où t'as en tête le moment où tu t'es dit, non, vraiment, en fait, c'est trop, je peux plus?
Ben, j'ai déprimé beaucoup. Parce que j'étais éducatrice d'internat. Mm. Donc, je fais le relais maternel, quoi. Je m'occupe de tout. Des fois, j'arrive au travail, il faut courir aux urgences pour une opération parce qu'ils sont découpés ou parce qu'ils ont...
Oui, ils se scarifiaient.
Oh, c'était mm. trop dur. Ou je suis à la police. Ou... Ça devenait... J'avais plus de 50 ans quand mm. ça devenait dur.
Le jeune qui t'a le plus marqué dans ta carrière de monitrice, éducatrice?
Non, j'en ai pas.
Il n'y en a pas un qui t'a marqué plus que les autres? Son histoire?
Ben, la plupart, c'est surtout, c'est toujours les jeunes sans papier. Mm. C'est surtout ça qui était déplorable pour eux, quoi. C'était difficile.
D'ailleurs, tu dis ça, je fais un bond en arrière. Quand tu arrives en France, tu obtiens tes papiers facilement?
Je suis venue par bien de mariage. Mmh. Donc, c'était facile.
À l'époque, c'était facile.
Oui, c'est juste parce que il fallait mettre le sigle travailleur mmh. sur ma carte qui était compliqué.
D'accord.
Mais bon, j'ai réussi sans problème.
Alors que.
J'ai demandé un certificat de travail. On m'a donné sans dire pourquoi. Je suis allée à la préfecture, ils m'ont mis la mention. C'était fini.
Et des dizaines et dizaines d'années plus tard. Tu dis quand même que ce qui était difficile au foyer, c'est ces jeunes qui sont pris en charge par l'État, mmh. qui arrivent, qui n'ont pas de papier, la difficulté à en avoir.
Oui, oui, c'était très, très difficile parce qu'ils ont menti sur l'âge aussi. Mmh. Il faut quand même les aider malgré tout. Il y a plein de choses qui se mettent en jeu parce que chacun veut coûte que coûte avoir ses papiers. Mmh. Mais le plus dur, c'est qu'il fallait finir la nuit. J'ai fini à 23h minuit. Le temps de quitter le travail pour arriver à la maison et le matin rebelote à 10h pour aller au travail.
T'étais véhiculée? T'avais la voiture?
J'avais la voiture, j'ai toujours eu la voiture mmh. depuis la naissance de. Avant la naissance de mon troisième.
Ouais, heureusement avec les enfants.
Mmh. Oui, parce que les deux, Brice et Alexis, sont asthmatiques, tout petits. Donc moi, à chaque fois, dès que je travaillais, il fallait que j'aille aux urgences pour qu'on les. Et fasse respirer, quoi. Et c'était compliqué pour moi. Donc, au vu de tout ça, plus qu'il faut acheter le lait à la maison, faire les courses, il me fallait une voiture. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai passé mon permis, qui n'était pas facile. Je l'ai échoué 5 fois. J'ai persévéré comme sur ce que je suis.
Puis quel genre de maman sur la route, celles qui conduisent bien ou celles qui se font klaxonner tout le temps là? Est-ce que les gens ils te klaxonnent quand tu roules?
Aujourd'hui là?
Ouais.
C'est depuis 87. Pourquoi tu vas me klaxonner?
Ouais, mais du coup, c'est pas parce que tu sais. On a une tata qui est là aussi, donc on entend les échanges.
T'as merci.
Quand tu conduis, tu vois ce qu'on dit là au volant? Est-ce que tu fais partie de ceux qui respectent le code de la route ou est-ce que tu fais partie de ceux qui font comme ils veulent?
Ah non, je ne fais pas comme je veux. Je fais partie de ceux qui respectent le code. Pas plus de 60 à l'heure, 80 à l'heure. Ça, c'est dit.
Même sur l'autoroute?
Mais je fais quoi sur l'autoroute?
Tu ne vas pas sur l'autoroute?
Mais c'est eux qui me conduisent. Les
ah enfants. Bah ouais. Ça j'ai sera ça d'avoir des pilotes.
j'ai pas besoin. Ils ont des belles voitures.
Ils ont des belles voitures qui roulent vite.
Des voitures qui me... Si j'ai envie, si on va par là. puisque je reste dans le secteur.
Sinon, tu restes dans le secteur.
Je reste dans le secteur, même pour mon travail.
Quoi. Bah oui. Donc, t'es monitrice éducatrice, et après, tu fais quoi?
Après, quand j'intègre le 77, je passe par la VAE, mon diplôme d'EDUXP. Je suis éducatrice spécialisée, où je travaille 3 ans, et après, j'arrête tout.
Tu travailles 3 ans avec toujours le même public, ou tu changes?
Toujours le même public. Okay. Et puis, j'arrête tout parce que je ne tenais plus. Donc, du coup, ayant réussi à passer par un accident de travail, donc du coup, j'intègre la MPE, et de la MPE, il m'intègre au Santé des jeunes travailleurs. Santé de jeunes travailleurs, il y a un groupe de psychologues qui déblaient en moi mes compétences, et ça se voit que j'avais les compétences de cuisiner en moi depuis le Cameroun. Donc, c'est comme ça que je passe par la chambre des métiers pour ma formation. Ensuite, j'ai fait un pressbook où je passe devant un jury pour délibérer et ouvrir mon restaurant. Donc, j'étais accompagnée par le comité de vin de Bièvre, dont un soutien, parce que j'avais 53 ou 54 ans déjà, m'ont accompagnée jusqu'à ce que je développe mon histoire jusqu'au bout.
Trop bien. Donc aujourd'hui, ton resto, il est où?
C'est à Choisy-le-Roi.
Choisy-le-Roi, c'est dans le 94, hein?
Oui.
Il s'appelle comment?
Restaurant chez Pauline.
Ah ouais, chez Pauline.
Bah oui, les enfants.
Eh ben ouais, mais c'est très
chez
bien.
Moi, ça restera.
Du coup, à tous les auditeurs, là, il va falloir passer des commandes sur Uber Eats ou autre. Restaurant chez Pauline, Choisy 94, parce que c'est une fierté pour nous d'entendre ça. je crois que tu as une autre activité à côté de la cuisine. Tu fais autre chose aussi.
Les objets d'art.
Les objets d'art, oui. Tu fais quoi?
Eh ben, je vais au Cameroun tous les 6 mois, où je ramène pas mal d'objets comme ceux-là, par exemple. Je vends un peu de tout. Et les éventails, les trousses.
T'as un site? Comment on fait pour savoir ce que t'as en stock?
J'ai un site.
T'as un site? Il s'appelle chez Pauline?
Mais c'est pas animé par le site, c'est à la boutique même.
Ok, c'est une boutique en ligne en fait?
Non, même pas.
Même pas?
Même pas, c'est à la boutique même.
C'est à la boutique même.
Au 47 rue Auguste Blanqui.
Mais si je vais sur internet et que je veux retrouver, je vais taper chez Pauline, je vais tomber aussi bien sur le traiteur que sur...
Je ne pense pas, parce que c'est les garçons qui doivent peut-être animer ça, mais je crois que sur Instagram, il y a.
Ouais, trop bien.
Ils ont mis les photos.
On mettra tout ça en bio?
Oui, je te dis.
Pour que les gens puissent retrouver.
En gros, à la boutique.
D'accord, bah...
C'est, je manque qui animait aussi en plus, parce qu'on m'a dit si je mettais en ligne, je pourrais vendre à l'occasion.
T'es fière de toi?
Et comment?
Tout à l'heure, tu m'as dit en off, je suis à mon apogée.
Ben, j'ai réussi ma vie.
Bien sûr.
C'est un parcours vraiment atypique, quoi. J'ai fait des détours et là, j'ai atteint le plafond. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Rien du tout.
T'as dit, j'ai réussi ma vie. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, c'est quoi réussir sa vie?
Eh ben, c'est passer par des contours chaotiques entre la vie de famille, la vie de travail et être là où je suis aujourd'hui, à 67 ans. Être là où je suis aujourd'hui, donc là, c'est ma retraite.
Quelle fierté.
Bien tranquille.
Même de t'entendre, j'en suis fière.
fais à manger, je nourris tout le monde, toute la population, les gens sont contents. Et je vends mes objets, ça fait plaisir. Quand ils arrivent là, ils ne font que l'applaudir, comme « Waouh,
wow,
tu as réussi ». Et c'est vrai.
On va passer... cette émission, elle va se faire en 2 temps. Il va y avoir la première partie, la deuxième. Avant de clôturer cette première partie, j'aimerais te poser la question quand même de savoir... tu as parlé de tout ton parcours. On a senti que tu avais traversé... tellement d'épreuves, plus d'épreuves qu'une personne ne peut avoir, c'est presque plusieurs vies. Quand tu arrives en France, est-ce que tu te sens, légitime? Parce que tu as dit que tu avais un gros caractère. Et on sait que souvent, quand on parle à nos mamans de leur arrivée en France, de comment elles ont été considérées ou pas considérées, c'était difficile. Les discriminations, le racisme, etc. Est-ce que toi, tu l'as vécu ou est-ce que tu ne l'as pas vu du tout sur ton parcours?
Ça, je ne peux pas tellement décrire. Peut-être un peu dans les sociétés. Quand je travaillais
pour un employé. Oui, parce que tu as fait du ménage, par exemple.
Oh non, dans le ménage, j'étais J'étais libre. J'avais ma voiture.
J'étais tu passais autonome.
Oh oui, oui, j'avais des tâches à faire. J'avais des endroits où je devais faire. À un moment donné, je sortais même les poubelles. On sortait les poubelles. Et puis, il n'y a pas de problème. J'étais autonome. Je n'ai pas eu cette relation directe
donc
avec les
pas,
collègues.
Non. Et tu n'as pas eu ce sentiment de mépris ou de rejet? C'est important de le souligner parce qu'on on parle souvent des parcours qui ont été marqués et traumatisés aussi, hein, par le racisme, par le fait de ne pas se sentir à sa place, etc. Mais c'est important aussi de parler de nos mamans qui ne l'ont pas subi, qui ont eu la chance de ne pas le subir, en tout cas, ou de ne pas en souffrir, de ne pas s'en apercevoir. Je trouve que c'est important aussi de...
Je sais que quand j'étais éducatrice spécialisée, ben, je me sentais un peu plus mise à l'écart parce que j'étais leader. Parce que j'avais mis en place le groupe de danse africaine qui marchait très bien. J'ai fait tout un grand événement avec une collègue aussi, camerounaise comme moi. Ben, c'est là où les autres n'étaient pas contents parce que j'étais bien vue. Et les institutions, même au niveau de la hiérarchie, parlaient que de ça, de ce que je faisais en place. Et je faisais la cuisine aussi, au centre. Là, je me sentais même au cours des réunions comme ça avec les autres, un peu mis à l'écart. Et le comble, c'est quand j'ai eu mon diplôme, j'étais la première dans l'institution à avoir mon diplôme d'éducatrice spé, ben, ils en étaient malades parce que j'ai fait une grande fête, parce que j'adore les fêtes, où j'ai convié tout le monde. Oh là là, c'était encore horrible. Donc, il fallait que je parte. Après ça, je ne pouvais plus résister parce que c'était devenu la jalousie très, très dure pour moi. Quand j'arrive, tout le monde cafte sur mon dos et quand j'entre, c'est comme si... Il m'accueillait à bras ouverts et je le ressentais. J'ai dit non, il faut que j'aille. Et à part derrière, certains venaient me dire, comment tu as fait pour écrire ta vidéo? Tu vas m'aider aussi à rédiger, tu vas m'aider à aller me faire accompagner parce qu'ils ont pris le même parcours que moi pour avoir aussi leur diplôme. Pendant que j'étudiais à chaque fois dans l'institution, ils étaient jaloux. Ils ne voulaient pas, ils allaient cafeter au bureau. Elle ne travaille plus, elle est toujours dans les livres.
Ah, donc
elle
tu vois, toujours... on a quand même... Ça. En fait, finalement, tu dis que tu ne l'as pas vue, mais tu as quand même vécu un peu, dès que tu es rentrée dans les institutions, ce rejet de ta compétence, de ton leadership, de ta capacité à passer par la VAE avec le temps rédactionnel. Et donc, ce sont quand même des choses qui t'ont peut-être pas traumatisée pour le coup, mais en tout cas, tu les as... Parce que l'émancipation de vous, nos mamans, elle passe aussi par le fait, un, que vous ayez ce courage de faire les choses, mais il faut aussi que de l'autre côté, cette compétence soit reconnue. Parce que pour avoir accès à une formation payante ou autre, il faut aussi que ton employeur, tes collègues, enfin, en tout cas, ton employeur, surtout ton service RH, te valide, te paye une formation. Et donc, quand on te dit, oui, mais est-ce que tu es sûr que tu peux aller au bout de la démarche, est-ce que tu vas... C'est quand même...
Mais l'autre sujet, c'est que quoi? L'autre pire. J'arrive à là un peu, étant inscrite, mais c'est la conseillère qui est en train de me dire, mais pourquoi tu veux travailler? Tu as 55 ans et tu es en accident de travail, mais reste au chômage, reste à la maison.
Incroyable.
Elle dit, mais tu vas mieux gagner ta vie en étant en accident de travail, puisqu'on t'a déclaré déjà d'office. Que d'aller travailler.
Elle ne savait pas que tu étais une battante.
Non, je lui ai dit, madame, si je reste à la maison, c'est pour m'enfoncer. Je préfère plus rester en accident de travail et aller faire quelque chose. Elle ne me croyait pas.
Mais oui.
Elle m'a dit, tu as 55 ans, arrête de pouvoir vaincre le mental. Je dis, non, je ne veux pas, il faut que je fasse quelque chose.
Et puis quelque part, même quand on écoute ton histoire, c'était important finalement que tu prennes aussi cette décision-là. Parce que maintenant que tes enfants sont grands, adultes, avec tout le parcours difficile de résilience que tu as eu, eh ben, c'est ça qui permet qu'aujourd'hui tu sois à ton apogée, que tu sois fière d'avoir ton entreprise parce que tu as pris le temps de te consacrer à toi un petit peu.
Oui. Le pire, c'est que quand j'entre dans le groupe des psychologues qui devaient m'évaluer pour voir ce qui en ressort, ben, à chaque fois, ils me disent toujours que de toutes les façons, parce qu'ils m'ont demandé au préambule, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, femme de ménage. Qu'est-ce qu'elles ont reconnu? Elle dit, ben, venant de Duxpé.
Vous voulez faire femme de ménage?
Ah oh non, Pauline, non, relève-toi, non, ça ne peut pas aller. Hein. Ils m'ont secoué.
pas réfléchi.
Réfléchis et reviens nous voir. un dernier message. En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment dont tu veux profiter pour dire à tes enfants par rapport à cette première partie de ta vie, donc toi enfant, toi maman, est-ce que tu veux leur dire quelque chose en particulier, en profiter pour déposer quelque chose?
Rien. Qui continuent à être toujours des battants comme ils le sont, parce qu'il n'y a que ça qui me donne la joie de vivre et le bonheur, d'être toujours courageux et, là, et d'aller toujours de l'avant.
Tu les aimes?
Et comment?
On peut leur dire ça? Tu peux leur dire?
Eh bien, je vous aime. Je vous aime tous. Et comment? Bon.
Franchement, merci c'est infiniment. Merci infiniment pour ce premier témoignage. Tellement profond, tellement plein de sincérité, de résilience. C'est très courageux de parler de son histoire. Et vraiment, je te remercie parce que même moi, j'ai été plongée en me disant, mais... Et quand tu finis cette première partie par « Aujourd'hui, je suis une femme d'affaires, fière de ce que j'ai construit », c'est juste magnifique. Donc, merci de m'avoir fait confiance. On se revoit très vite pour la deuxième partie.
En tout cas,
je remercie mon Paris FM de nous accueillir ici, de nous donner cette opportunité. Merci aux auditeurs et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci, Pauline.
Merci. Et bonne soirée.
Et bonne soirée. Ciao.